Vuelta, c'est une formation qui puise avec délice dans les compositions prolifiques des plus grandes figures du patrimoine musical cubain. Un répertoire exigeant et atypique que nos musiciens de la Vuelta ont aussi voulu énergique et dansant, et où les rythmes populaires afro-cubains côtoient avec jubilation un univers à mi-chemin entre classique et jazz. Alors en ce dimanche, dernière journée en direct du Festival Tempo Latino, édition 2022, aujourd'hui, en cette soirée, nous avons la chance de recevoir un groupe qui s'est produit deux fois. C'est assez original pour un festival. Entre hier, donc samedi, et aujourd'hui dimanche, nous recevons la Vuelta sur les ondes d'Alternante FM. Alors la première question que je vais vous poser, c'est liée aux émotions et aux sensations qui vous traversent suite à ces deux prestations sur deux jours différents. Comment vous sentez-vous et qu'est-ce qui vous traverse là ? On va commencer par Claire.
Bah, c'était dense quoi, c'était comme à Vic, comme ça allait à Vic quoi, il y a plein de concerts, nous deux concerts d'affilée, donc effectivement c'était dense. Voilà.
Au niveau des sensations, des émotions, qu'est-ce que ça fait d'être à Tempo Latino ? Est-ce que pour vous artistiquement et personnellement c'est quelque chose qui importe de venir dans ce type de festival ?
Bah ouais, c'est super, puis ça veut dire aussi qu'à un moment il y a une attention qui est portée aussi à d'autres musiques sur le danson cubain, donc qui est programmée par notre biais, donc ouais, tout à fait.
Vous le connaissiez ce festival avant de venir ici ?
Ouais.
Prise de parole peut se faire, vous levez la main comme à l'école et puis...
Oui, si, moi j'étais venu, ce qui est marrant c'est que j'étais venu en tant que spectateur déjà à ce festival à partir de 2005 jusqu'à 2009. Donc j'avais fait plusieurs éditions en tant que spectateur. Et donc oui, c'est une fierté. On est content, on est très content de jouer dans un festival comme ça, avec un public qui est très connaisseur, mélomane, et oui, connaisseur de cette musique. Et on essaie quand même, de avec le danson, d'amener ce style de musique que les gens ne connaissent pas trop dans la musique latine.
Alors juste avant de parler du danson, est-ce qu'on pourrait faire une petite présentation de tous les membres du groupe à travers peut-être vos parcours personnels pour que nos auditrices et nos auditeurs puissent vous connaître et peut-être aussi d'un point de vue instrumental par rapport à ce que vous jouez. Je commence de gauche à droite.
Alors moi je suis Claire, je suis pianiste, je fais beaucoup de musique latine, donc voilà, mon parcours personnel il est autour de tout ça. D'ailleurs, on est plusieurs à jouer ensemble par ailleurs dans un groupe de salsa Dura. Et voilà, moi je suis arrivée à la salsa un peu juste parce que j'ai aimé cette musique, je l'écoutais et qu'à un moment je faisais du piano et je faisais d'autres styles et que j'ai eu envie de faire cette musique-là, quoi. Et après, on s'est penché sur le danson parce qu'on s'est dit que c'était intéressant d'aller aux sources de cette musique, donc voilà.
Parfait, merci.
Moi je m'appelle Eric, donc je suis percussionniste. Là dans le groupe je joue les tumbas. Et donc bah moi je suis venu à la musique, je me suis intéressé en fait à la percussion quand j'étais plus jeune et avec le professeur que j'ai rencontré en fait il m'a vraiment mis sur la voie, enfin il m'a fait découvrir la musique afro-cubaine. Donc j'ai été piqué, voilà, j'ai le virus. Donc j'ai fait de la percussion beaucoup de traditionnelle en fait. Et après je suis arrivé à l'orchestre. C'est le parcours un peu naturel en fait. Voilà, mais j'ai une formation de conservatoire en percussion traditionnelle afro-cubaine.
On reviendra après sur le point de création et votre rencontre.
Alors moi c'est Cyril, je suis percussionniste aussi, je joue les timbales au sein de la Vuelta. Lors de mon parcours, j'ai été amené à aller à Paris, j'ai rencontré certains membres du groupe. Voilà, j'ai découvert la musique latine au début des années 2000, 2001, 2002, voilà, à Nantes justement. Il y avait une belle énergie au niveau de la musique cubaine, des musiciens cubains qui venaient voilà, pareil, hein, j'étais contaminé par ce style de musique.
Merci.
Moi, je suis Émilie, je suis la flûtiste. Moi, je suis d'abord saxophoniste. J'ai fait beaucoup de classiques. Et j'ai vraiment flashé sur la flûte cubaine. Donc, après avoir fait 15 ans de saxophone. Donc ce qui m'a plu, c'est l'improvisation. Puis en même temps, il y a un côté classique aussi, un mélange de classique et jazz. Et voilà, donc, moi j'ai commencé aussi dans les années 2000. Puis après, c'est un petit monde où beaucoup de réseaux.
Pour en arriver à la boîte d'art.
Voilà.
Voilà, donc moi je suis Emmanuel Paerdon, je suis bassiste. Donc je joue la bébiasse dans la Volta. Et moi en fait la musique latine, c'est assez marrant parce que moi c'est les gens avec qui que j'ai rencontré qui m'ont fait qui m'ont amené dans leur truc en fait dans ce style, notamment Cyril qui est toujours avec nous ici en fait, qui a été un des premiers musiciens qui m'a donné le enfin je sais pas, qui m'a donné des sensations incroyables dans cette musique et qui m'a fait comprendre que c'était un truc génial vraiment. Sans vouloir lui jeter des fleurs, mais c'est vraiment la vérité. Et du coup, à chaque fois, j'ai rencontré des gens comme Claire, comme Rico, comme Émilie, qui m'ont donné envie de pousser le truc et d'aller toujours plus loin dans la connaissance de cette musique, puis dans le plaisir de l'écouter, dans le plaisir de l'aborder, de la jouer, de la partager, en fait, surtout. Parce que là, je pense que ce projet, c'est aussi un projet qui est hyper lié à l'humain, en fait, Il y a beaucoup de partage en fait. Tu parlais tout à l'heure des émotions qu'on avait eues en fait en jouant ici. En fait, pour moi, les émotions elles sont beaucoup liées aux interactions qu'on a entre nous et à la manière dont on vit ces concerts, quoi. Ce qu'on donne et entre nous en fait, quasiment ça marcherait presque sans qu'il y ait personne devant. Même si du coup le fait qu'il y ait une énergie en plus, c'est assez incroyable, quoi. Ça on peut pas le renier. Mais en fait, là, nous, avant de venir ici, on était dans les Cévennes à répéter et on était juste tous les cinq et en fait c'était déjà du bonheur en fait.
On s'est retrouvés.
Presque autant que les concerts qu'on a fait ici, quoi. Donc pour moi c'est vraiment une musique qui est liée à l'humain et c'est tous ces gens très aussi très habités qui m'ont amené à aimer cette musique et à faire ce qu'aujourd'hui ouais, j'ai bien le pied dedans, quoi.
Alors justement, cette cohésion, on sent qu'il y a un amour instrumental, mais aussi un amour de se retrouver et de partager un moment ensemble que vous diffusez du coup sur scène et auprès du public. Hein. C'est vrai que la particularité de cette musique, c'est qu'elle fait danser. C'est pas le cas de toutes les musiques. Donc on a bien vu ce qui s'est passé ce soir et hier, hein, c'est que ça danse, ça bouge. Et donc les gens captent aussi ce que vous avez à leur apporter. C'est quoi le point de rencontre de votre groupe du coup? Comment ça s'est tissé progressivement, le point de rencontre? Comment vous vous êtes tous associés les uns les autres en fait? Est-ce qu'il y a eu un moment donné, une rencontre en particulier? Est-ce qu'il y a un membre fondateur du groupe ou une membre fondatrice? Le point d'origine, le fameux Big Bang du groupe.
Ouais, moi j'étais à l'initiative du projet, mais qui a vocation en fait à exister avec les musiciens qui sont là, quoi, qui auraient aucun intérêt toute seule. Donc c'est, bon, c'est peu importe que ce soit moi qui soit à l'origine du projet, mais oui, c'est parce qu'en fait le danson c'est un genre qui est peu connu et que nous-mêmes ça nous interpelle parce qu'on fait cette musique et que du coup on a voulu creuser, parce que c'est pas notre musique, on reste des Français, hein, qui n'ont pas baigné là-dedans. Donc à un moment on a tous voulu creuser un peu là-dedans et donc on s'est dit c'est bien de revenir un peu aux sources de la musique qu'on écoute, c'est-à-dire la salsa, l'art en particulier cubaine, mais et donc voilà. Donc il se trouve qu'on se connaissait par ailleurs, les uns et les autres, dans différents projets musicaux, et que à un moment c'est apparu assez évident que ça allait fonctionner parce qu'on se connaît bien, que Cyril, Manu et moi on travaille en section rythmique dans notre formation. Donc, et Émilie, on avait déjà travaillé ensemble dans un projet qui avait rien à voir de la teen jazz, Rico aussi, voilà. Bref, donc ça s'est fait un peu naturellement et simplement, sans que ça soit un moment, on s'est dit, on monte cette formule-là, ça s'est fait assez naturellement.
Très bien, et ça s'est fait en quelle année, alors la Vuelta, à quel âge maintenant?
Alors ça, je sais pas, c'est il y a 3 ans, quoi, 3-4 ans. On a vaguement lancé le projet il y a 3-4 ans. On ne savait pas trop encore, on ne savait pas quelle formule on allait privilégier. 3, 4, 5, là on est super content à 5, c'est là où ça marche le mieux. Donc idéalement on aimerait jouer plus souvent à 5. Mais oui, c'était il y a 3 ans et demi à peu près, un peu plus peut-être. Ouais, c'était avant que je quitte Paris, quoi. Voilà.
Et du coup, est-ce que vous pouvez maintenant caractériser le danzone ? Parce qu'on parle souvent donc, de la salsa, forcément, on n'en connaît pas toujours les origines. Est-ce qu'on peut faire un petit point historique sur ce style musical, de par son histoire, sa géographie et le message qu'il véhicule ?
Alors, le message qu'il véhicule, je ne sais pas trop. Par contre, sa généalogie, bah, c'est que c'est un genre musical qui est apparu au dernier tiers du 19e siècle, à peu près. Enfin, en tout cas, qui s'est vraiment développé à ce moment-là et qui a connu son heure de gloire dans les années 50, enfin 1950, avec des gros orchestres, Arcagno, Isso Maravillas, Cachao, tout ça. Voilà. Et c'est un genre musical qui est arrivé sur l'île un peu parce qu'il y a eu des apports de la musique qui était importée par les colons espagnols et les colons français aussi, quand il y a eu la révolution en Haïti, à la fin du 18e, quoi. Et du coup, les colons français sont arrivés avec les danses européennes classiques, et en fait, qui ont pris sur l'île, en fait, et qui ont été complètement intégrés dans la culture locale, et je crois en particulier à Matanzas, par les Noirs. Hein. Et du coup, ils ont intégré tous ces éléments qui venaient de la contredanse, la habanera, tout ça. Ils ont fait un mix. Et puis bon, je simplifie, mais en fait, c'est vrai que le danzone s'est émergé à partir de là, quoi. De ces musiques européennes classiques, et puis qui ont bénéficié de l'apport de toute la musique rythmique aux racines africaines, des esclaves là, qui étaient aussi Cuba. Quoi.
Très bien. Est-ce que le groupe s'est déjà produit à l'étranger, ou est-ce que ça pourrait être une idée peut-être dans vos futurs projets ?
On aurait une piste au Mexique, il paraît. Il semblerait que le Mexique, ce soit le pays au monde où on danse et on écoute le plus de danzone.
D'accord.
Plus qu'à Cuba. Parce qu'à Cuba, c'est devenu une danse complètement
marginalisée.
Un peu marginalisée, dépassée. C'est plutôt les personnes âgées qui la jouent et qui la dansent.
D'accord.
Et par contre, le danzone, c'est exporté au Mexique. Et au Mexique, ça marche du feu de Dieu, paraît-il.
D'accord, très bien. Ouais, et le danzone est-il associé à une danse particulière ? Parce qu'on parle de salsa. Du coup, c'est une danse particulière de salsa ?
C'est une danse qui se danse en groupe, je crois. Alors, c'est très codifié. Il y a très peu de gens qui la connaissent. Évidemment, encore moins ici qu'ailleurs, quoi, qu'à Cuba. Mais oui, c'est une danse de groupe, avec des figures de groupe. Et qui, d'ailleurs, au moment où elle s'est développée à Cuba et tout ça, c'était hyper mal vu.
Ah,
parce que c'était une danse, contrairement au menuet, aux contredanses, machin, tout ça, c'était une danse qu'on trouvait trop, presque trop tendancieuse, quoi. Trop, les mouvements de hanches, c'était mal vu, tout ça. Et les gens commençaient à danser ensemble et commençaient un peu à danser par deux, même si c'était encore des figures collectives et tout, enfin des figures de groupe et tout. Donc, ouais, mais il y a une danse très très codifiée, on ne sait pas la danser ni les uns ni les autres, enfin peut-être, je ne sais pas.
Justement, ça doit être très drôle justement de jouer ce style, puis de voir en fait des pas de salsa devant vous, où quelque part on se dit que en fait, le public ne sait pas finalement que la musique qui est jouée ne se rattache pas forcément à la salsa telle qu'on la connaît finalement.
La salsa se rattache au danzone.
Voilà, donc aujourd'hui finalement on serait sur une forme de continuité alors finalement.
Oui, complètement. On l'entend dans les morceaux qu'on fait, il y a toute la partie classique d'introduction des thèmes qui sont très classiques et qui rappellent plutôt la musique classique. Et puis il y a un moment où ça part en montuno, en cha-cha. Et du coup, là, les gens, ils sont familiers. Donc ils dansent, même s'ils dansent le cha-cha ou le boléro, on s'en fiche, c'est pas le danzone, mais ça colle bien.
Au niveau du processus de création, au niveau des textes ou au niveau de la production musicale, c'est quoi le point de départ ? Est-ce que ça peut partir d'un texte pour aller vers des sonorités, ou est-ce qu'on part plutôt des sonorités ?
Non, on est plutôt parti des sensations par rapport aux morceaux et par rapport à ce que ça dégageait, ce que ça nous inspirait. Donc on a choisi les danzone plutôt par rapport à la forme musicale qu'au texte, parce que d'abord il n'y a pas beaucoup de texte, il y a très peu de texte, il n'y a que des chœurs ici ou là, donc c'était plus on a eu envie de choisir les morceaux qui nous touchaient et voilà, qui nous faisaient un peu vibrer, quoi.
Ouais, complètement. Est-ce que vous avez déjà voyagé en Amérique latine ? Est-ce que c'est une source d'inspiration aussi, peut-être à travers ce que vous produisez sur scène ?
Oui, moi j'ai eu l'occasion d'aller trois fois à Cuba, plusieurs expériences, des stages, des voyages touristiques, voyages musicaux. Oui, c'est bien sûr, c'est une inspiration. Quand on va là-bas, c'est une piqûre d'énergie et de de danse, de valeurs super humaines en fait. Enfin voilà, ça rejoint ce que disait Manu tout à l'heure. C'est dans cette musique-là, il y a bien sûr le côté humain et le partage. On ne peut pas faire cette musique si on ne partage pas, si on n'est pas content et allégré, comme on dit. Il faut la vivre et être. On peut partager des choses, des sensations, c'est super important. Donc, oui, quand on va là-bas, les voyages, ça donne de l'énergie, clairement.
Ça nourrit,
ouais.
Est-ce qu'il y a des projets liés au groupe, peut-être des projets d'albums? Parce que alors, j'ai fait mes recherches, j'ai googlisé à fond, j'ai pas trouvé d'album, me semble-t-il. Ouais, je m'en excuse si je me trompe. Est-ce qu'il y aurait, quels sont vos projets d'un point de vue artistique, là, maintenant, dans les semaines, les mois, les années, qui pourraient venir?
Au Mexique, là.
Déjà. Ça, c'est vraiment à fond dessus, là.
On a joué hier, et il y a un monsieur qui connaît très bien le Mexique.
D'accord.
Juste après qu'on se soit rencontrés.
Le Danson, du coup.
Qui connaît très bien le Danson, qui connaît la danse, qui a l'air de connaître la danse, en tout cas. Et qui nous a expliqué qu'au Mexique, c'était... Bon, on le savait déjà, mais... qui nous a expliqué que c'était très populaire là-bas et qu'il y avait moyen et qu'il y aurait moyen pour nous de faire une tournée et de... Voilà, il y a des cours, comme ici, il y a les cours de salsa tous les mercredis. Ben là-bas, c'est des cours de danson. Sur des places, les gens, ils dansent le danson.
Donc, c'est super.
Voilà, ça mettrait un bel objectif pour le projet, quoi.
Complètement. Puis là, je pense qu'il y a peut-être aussi un peu la marque Tempo Latino, maintenant, qui, dans le CV, peut aussi permettre d'ouvrir certaines portes. En tout cas, nous, quand on étudie un peu les artistes, c'est vrai que souvent, on se rend compte que ça peut être un beau tremplin aussi pour des groupes comme le vôtre. Voilà. On va aborder la fin de cette interview, déjà. Est-ce que vous auriez chacune et chacun un artiste à nous proposer pour nos auditrices et nos auditeurs? Ça peut être du latino, du danzon, comme pas du tout. Est-ce que vous auriez un artiste comme ça, chacun et chacune, quelqu'un que vous avez peut-être écouté aujourd'hui ou dernièrement, ou peut-être sur les scènes des arènes ou de la conga, je sais pas.
Moi, je vais en dire un. Par rapport au style qu'on joue, par rapport au danzon, c'est Cachao.
Cachao,
on l'a vu ici en, je sais plus en quelle année c'était, mais voilà, c'était un des pères du danzon et c'était un moment magique, quoi.
C'est un Cubain pour le coup.
Ouais, Cubain. Qui s'est exilé après aux États-Unis.
D'accord.
Mais qui a joué beaucoup à Cuba dans les années 20, 30, 40. Voilà. C'était un contrebassiste. D'une grande famille de contrebassistes, d'une grande lignée de contrebassistes. Et il se trouve que ce soir-là, au concert des arènes, il y a eu la rencontre avec son neveu qui était Cachaito Lopez, qui était le bassiste du Buena Vista Social Club, qui s'était pas vu depuis des années. Et c'était monstrueux.
Très très fort pour le coup. Pour les autres?
Moi j'allais dire Cachao aussi.
Ouais, aussi Cachao. Ça restera.
Ça fait de l'unanimité.
Un petit doute aussi, pareil.
Ok,
on ira chercher Cachao pour nos auditrices et nos auditeurs. Et merci La Vuelta pour cette interview. Et on vous souhaite une bonne continuation et peut-être à très bientôt sur les ondes d'Alternante FM. Au revoir.
Plaisir.